Bonjour Jean-Pierre de la Meuse, près de Bure, tristement célèbre. Je vous appelle de Dubaï, parce qu'à Dubaï, il y a une piste de ski, en plein désert. Voilà, sans commentaire. Merci.
Bonjour Joseph Alleyrand en Ariège. Je viens dire aux auditeurs de la Terre au Carré qu'une atteinte importante à des milieux riches en biodiversité est en cours dans le département. À l'est de la retenue artificielle de 551 hectares du lac de Montbel, sur 79 hectares restant à niveau constant toute l'année, un projet de 25 cabanes pour touristes aisés est en débat depuis un an. Suite à la sollicitation d'une agence d'attractivité, des élus locaux vont louer à une entreprise privée un site qui est une véritable niche écologique. Un collectif dénommé À pas de loutre s'est constitué. Il conteste le bien fondé de cette initiative. Jusqu'à quand, au nom du tourisme, élus et administrations vont-ils cautionner, soutenir ces projets destructeurs de biodiversité proposés par les entreprises privées? Merci pour l'écho que vous apportez à ces questions.
Bonjour, c'est Simon. J'appelle de Rambouillet pour vous parler d'une initiative qui s'appelle Sheba Hope Grows, qu'on voit dans une vidéo sur YouTube. C'est le plus grand programme au monde de restauration des coraux. Il a lieu en Indonésie, en Australie, au Mexique et aux Seychelles. Avec une solution toute simple, une étoile en métal qui est posée avec une greffe de corail, on arrive à recréer des massifs entiers de coraux. D'ici à 2029, il y a près de l'équivalent de 150 piscines olympiques de récifs coralliens qui vont être restaurées à travers le monde. Et tout le monde peut y participer. Donc si vous vous rendez sur YouTube et vous tapez Sheba Hope Grows, vous pouvez participer à cette initiative.
Bonjour, Monsieur Crozier de l'Ardèche. J'ai écouté l'émission avec Yann Arthus-Bertrand. Je trouve inacceptable qu'une personne de cette influence conseille aux gens d'être végétariens. On ferait mieux d'aller voir un peu ce qui se dit au niveau des gens qui passent sur votre émission, d'ailleurs comme Marc-André Sellos, qui soutient bien sûr que l'usage intensif agricole pour produire de la viande est nocif, certes, mais que nous sommes omnivores et qu'il nous est recommandé de manger 25 kilos tout au plus de viande par an, voilà, et que ça a amené énormément de choses à la planète. Il suffit d'aller lire son livre qui est super bien sur l'origine du monde, voilà ce que j'avais à dire. Au revoir.
Bonjour, c'est Dominique de Musiac dans le Morbihan. Je suis éleveur laitier et j'ai entendu parler, vous avez parlé de bovins. Eh ben, je vais parler de mes vaches. Avec mon collègue, on a 50 vaches. Elles sont nourries avec de l'herbe et de l'herbe, c'est-à-dire avec du pâturage et du foin. Bien sûr, elles ont toute leur personnalité, c'est pour ça qu'on leur donne même un prénom à chacune, toujours lié à la géographie pour mieux voyager, toujours lié à la musique, ça peut être Papouasie, ça peut être Lima, ça peut être Nippon, ça peut être rock, ça peut être salsa. Bien sûr, elles ont toutes leur caractère, et celle qui sera toujours la première pour aller manger, celle qui essaiera de se faire oublier dans le pré pour ne pas aller à la traite, et puis il y a aussi celle qui attend dans le parc avant la traite. Eh ben j'y vais, parce que déjà qu'on ne traite qu'une fois par jour, il est 8h, il est temps d'aller à la traite, il est temps de les rejoindre. Bonne journée.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Tout au long de l'histoire de l'humanité, les hommes ont vécu avec les animaux dans une grande proximité, relation qui s'est même exprimée très tôt sur les parois des grottes avec des peintures qui ont fait la part belle aux bovins, longtemps considérés comme des bêtes sans intérêt, tout juste bonnes à regarder les trains passer et à produire de la viande. Les bovins suscitent depuis quelques années l'attention des éthologues et des comportementalistes animaliers qui ont révélé des habitudes de vie et une sensibilité longtemps ignorée. Eh bien, c'est l'occasion cet après-midi de nous mettre à hauteur de vache et de vous révéler des aspects méconnus de leur personnalité. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pauline Garcia et Alain Boissy. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Pauline Garcia, vous êtes comportementaliste et éducatrice animalier, mais vous êtes surtout éleveuse de vaches allaitantes de la race Salaire.
Exactement.
Dans le département du Cantal, vous avez publié un livre, Le Petit Guide illustré du bien-être bovin.
Oui.
C'est aux éditions France Agricole. Et puis Alain Boissy, vous êtes éthologiste, directeur de recherche à l'INRAE, directeur du Centre National de Référence pour le Bien-être Animal. Vous avez reçu cette année un laurier collectif de l'INRAE pour la mise en place d'un réseau scientifique justement sur cette question du bien-être. On va se retrouver dans un instant. Toutes les questions, il y a déjà pas mal de choses pour vous, des témoignages également sur les vaches et les bovins en général, avec la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et bien sûr l'application France Inter pour vous entendre directement avec vos messages vocaux. 14h30, Camille passe au vert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Je suis contente, vous avez bien prononcé salaire. Hein.
Salaire
hein. Les gens, on ne dit pas salaire, on dit salaire.
Non, là j'ai fait gaffe.
Aujourd'hui, moi je vous parle de la grippe aviaire. Sachez que vos œufs ou vos volailles plein air ils n'en ont désormais, et au moins jusqu'à février-mars, que le nom du plein air ou l'étiquette, parce que tout le monde est confiné.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Charles de Silia, préparée par Chantal de Montagny avec Laurent Baudouin aujourd'hui à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
On est en plein milieu des vaches. Il y a Louise, il y a Edelweiss, il y a Jaillance qui est là.
Elles ont toutes un prénom.
Toutes un prénom et on les connaît toutes. C'est grâce à nous qu'elles sont là déjà.
Anne-Marie, est-ce qu'elles répondent vraiment à leur prénom, vos vaches?
Ah oui, tout à fait.
C'est vrai?
Ah oui.
Montrez-le-moi, prouvez-le-moi alors. Appelez
c'est qui à côté de nous là?
C'est Louise.
Alors? Louise!
Mais Louise, elle est peut-être un peu impressionnée.
Mais parce que moi, j'ai pas la bonne intonation, je suis pas assez autoritaire avec elle.
Ah bon, alors on va faire
appel
à Florent.
Elle est plus autoritaire avec moi.
Allez-y, Florent, essayez.
Moi, je peux appeler, mais elles vont toutes se lever. Jaillance, hi. Elle a levé la tête, je l'ai vu.
Ah oui, ça se réveille un petit peu.
Est-ce qu'on les dérange là ou elles nous calculent pas presque?
Non, alors si on observe les vaches là, elles sont pour la moitié couchées, l'autre moitié en train de pâturer. Donc quand elles sont couchées, elles sont un mouvement de rumination là avec leur bouche. Ça veut dire qu'elles sont tranquilles, qu'elles sont bien et quand là, elles sont en train de produire du lait.
C'est qui ça?
C'est Edelweiss, c'est Edelweiss, elle est en train de se gratouiller.
Voilà, petit souvenir des Vosges, Camille.
C'était bien.
À Mittelaar, avec Florent et Anne-Marie Campello, éleveurs de vaches vosgiennes. Un dossier donc très vache cet après-midi dans la Terre au Carré avec nos invités, la comportementaliste et éleveuse Pauline Garcia et l'éthologiste Alain Boissy. Elle porte vos noms, vos vaches salaires, Pauline Garcia?
Alors moi, c'est un peu particulier. Je prends les deux derniers numéros de leur étiquette sur l'oreille, ouais. Et je vais leur attribuer un nom de département. Donc, c'est très facile à retenir. Donc, j'ai Aveyron, Cantal, j'ai Paris. Alors, j'ai plusieurs 75, donc je vais avoir Paris, Concorde, Trocadéro. Et c'est très facile à retenir. Et ouais. C'est du coup, je mets pas d'intention dans le nom, mm-hmm. Parce que j'ai entendu beaucoup de retours comme quoi, quand on donnait un prénom à un animal, on peut influencer indirectement son comportement. Mm-hmm. Et je sais que les animaux qui s'appellent en général Typhon, Tyson. Ouragan, ça peut influencer un peu le comportement de l'animal derrière.
Bah surtout quand vous dites que les vaches n'aiment pas le vent.
Non, elles n'apprécient pas, non.
Pourquoi
non.
Elles n'aiment pas le vent alors?
Alors
ça les stresse, c'est quelque chose de...
En tout cas, c'est très inconfortable pour elles et elles vont se mettre contre le sens du vent. Elles vont fuir vraiment. C'est pas quelque chose qui les met dans le bien-être et au contraire, elles vont fuir cette situation au maximum.
Ouais. Combien vous avez de vaches alors exactement? Et puis racontez-nous comment est votre environnement dans le Cantal.
Alors mon environnement, donc je suis éleveuse. On est deux associés. On a on a 110 mères de vaches allaitantes. Donc on a la race Salaire et quelques Aubraques aussi. Pour les éleveurs d'Aubraques, ça va leur plaire. Donc elles sont essentiellement dehors, donc on est sur de l'élevage plein air, mais comme on est à 1200 mètres d'altitude, les hivers sont très rigoureux, neige, vent, congère, tout ce que vous voulez. Les animaux, l'hiver, on les rentre dans les bâtiments et donc ça fait une petite période où elles sont à l'intérieur.
Vache allaitante, ça veut dire qu'il n'y a pas de traite du tout ou...
Pas du tout. Ouais. Le lait est uniquement à la consommation du veau.
Pour le veau.
Tout à fait, ça, hein. Pour le veau.
Alain Boissy, racontez-nous un petit peu, vous, depuis quand l'éthologie des vaches vous intéresse avec ce Centre National de Référence pour le Bien-être Animal qui, lui, est très récent, hein, je crois. Hein.
Tout à fait, oui. Le Centre National de Référence, je commence par celui-ci, pour le Bien-être Animal, a été donc créé en 2017. Sous l'égide du ministère de l'Agriculture, dans le cadre de la stratégie pour le bien-être animal, donc première stratégie nationale, et le Centre National de Référence pour le Bien-être Animal a pour mission, en fait, de pouvoir faciliter l'appropriation, le partage de la question du bien-être animal en diffusant les informations scientifiques, en accompagnant aussi les différentes parties prenantes, et puis surtout en apportant un éclairage aux politiques publiques.
Mmh. Et alors vous, les bovins, ça vous intéresse depuis quand?
Eh bien moi, ça m'intéresse depuis un certain temps, depuis donc les années 85. Voilà, quand j'ai commencé à faire ma thèse, je venais donc d'un endroit où je voulais faire plutôt une approche du comportement animal sur des animaux de... sauvage, donc c'était Dactari dans ma tête, voilà. Et puis par stage interposé, je me suis retrouvé à travailler sur les vaches et j'ai trouvé ça formidable de trouver des races différentes, des systèmes différents et donc avec une variabilité de comportement très différente pour la même espèce, ouais. C'est très riche.
Est-ce qu'elles ont des particularités, les vaches, justement, Pauline Garcia, par rapport à un cheval, par exemple?
Oui, alors moi,
ou un mouton.
Moi, je pourrais comparer qu'un cheval, quand il réagit face à une soudaineté, par exemple un événement soudain, il est plus réactif et plus vif dans sa fuite, par exemple. La vache va fuir tout autant, mais sa réaction est un petit peu plus molle, entre guillemets. Donc,
La vache est molle du genou, alors, un peu.
Elle est moins endurante. Et de toute façon, dans la domestication, on a eu du mal à attraper le cheval. Ça a été la dernière espèce à être attrapée par les humains et domestiquée.
Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il ne faut pas non plus croire que la vache, par exemple, elle va pas. Bon, elle ne le fait pas trop, je crois, mais elle va pas pouvoir charger ou courir quand même assez vite.
Ah si, elle est en mesure de le faire. Mais en comparaison avec le cheval, elle est plus lente.
Est-ce que justement l'analyse des comportements, l'étude du comportement des bovins a beaucoup évolué? Parce que là, on a un tout autre rapport, et même chez les éleveurs, hein, vous allez nous le dire, mais je crois que ça a beaucoup changé. Avant, les vaches, c'était des animaux quasiment idiots qui servaient qu'à faire de la viande. Et aujourd'hui, heureusement, on porte un autre regard là-dessus, Alain Boissy. Hein.
Oui, au départ, c'est vrai. Enfin, très longtemps, la vache, comme les autres animaux de la ferme, en fait, était vue comme un outil de production.
Ouais.
Et ce n'est que dans les années 80-90 qu'on a commencé à vraiment appréhender cet animal comme vraiment un objet de recherche pour comprendre, en fait, l'origine de ses comportements et surtout la diversité, la richesse de son comportement social, notamment. Ouais.
Alors vous formez des éleveurs, d'autres éleveurs, Pauline Garcia, et qui vous demandent plein de conseils justement sur l'éducation, la relation justement portée aux vaches. Il y a une vraie demande là aujourd'hui, vous avez vu les choses évoluer ?
Ça fait maintenant plus de 7-8 ans que je fais des formations chaque année auprès des chambres d'agriculture. Et à chaque fois, les formations sont pleines. Donc, les éleveurs sont vraiment très sensibles à un autre regard que je peux apporter, parce qu'ils ont quand même des notions. Ils ont grandi souvent dans une ferme et ils ont des notions. Ils ont du bon sens, on va dire. Mais le côté scientifique et vulgarisation, ils l'ont pas. Et donc, parfois, je vais expliquer des choses comme le fait que la vache, elle a une vision saccadée. Et du coup, il faut se déplacer très très lentement autour d'elle. Et parfois, du coup, les éleveurs me disent « Ah, mais c'est pour ça alors qu'elle est un petit peu vive quand je me déplace autour d'elle de manière rapidement. » Donc, ça leur fait prendre conscience que le comportement de l'humain influence le comportement de la vache.
Une vision saccadée, c'est-à-dire qu'elle a quoi, là, des petits...
En fait, au lieu de voir un film devant elle qui se déroule, elle voit des petites images qui se défilent les unes après les autres. Donc, il faut que les images soient lentes. Sinon, ça la perturbe.
Et au niveau de l'ouïe, est-ce qu'on entendait tout à l'heure sur les vaches vosgiennes les cloches, hein, mais que beaucoup de vaches ont, est-ce que ça les dérange? Est-ce que ça peut les stresser? Ou au contraire...
Il y a des études là-dessus. Alors ça dérange un peu. Parce que dans le sens où... il y a des traditions beaucoup derrière les vaches et il y a des éleveurs qui sont très attachés à ça. C'est le côté esthétique et traditionnel. Maintenant, les études montrent parfois une perte de surdité, des problèmes ostéopathiques...
Donc vous mettez pas de cloche, vous, par exemple ?
Non. Ouais. Non, moi, éleveuse, alors ça paraît un petit peu étrange, mais parce que la race salaire est souvent vue avec la cloche.
Oui,
non, en fait, nous, alors déjà, la cloche, essentiellement, c'était pour retrouver les vaches quand elles étaient perdues dans des bois. Maintenant, moi, dans la configuration de ma ferme, je n'en ai plus besoin. Déjà, de base, je retrouve mes vaches, je n'ai pas une configuration qui fait que mes vaches se perdent. Mais après, en connaissant ces études-là, ça a orienté mon choix pour les enlever. Oui.
Alain Boissy, c'est étonnant finalement cette méconnaissance du lien, des relations avec cet animal, même de la part des éleveurs qui vivent pourtant auprès des bovins depuis tellement longtemps.
Oui, je ne dirais pas une méconnaissance, je dirais un savoir empirique, en fait. Et la recherche a permis de formaliser la connaissance. Et ça permet à ce moment-là de transmettre plus facilement l'impact que le comportement de l'homme, de l'éleveur peut avoir sur les animaux et vice versa, l'impact du comportement des animaux sur l'éleveur, de formaliser, de pouvoir transmettre. Donc Pauline parlait effectivement de formation. C'est vrai que maintenant la formation des éleveurs en BTS pour les techniciens d'élevage notamment, on commence à parler du bien-être de ces animaux.
Allez, on va parler comportement donc et relations avec les bovins, c'est le dossier de la Terre au Carré.
You need something unexpected. Some form of weapon. You ask him to feel protected. And still feel protected. Just one time for the record. Just one time for the record. Don't agree with the message. Don't agree with the methods. Don't let the lifestyle drag. Waking me up at 5:30. Why the hell are you worried? Play something that is very, very vibe worthy. I don't want my mind alerting. People saying tweeting gonna make you die early. How about have my heart hurting? Hold it on the side, that can make you die early. Gonna get your best attorney. Something's there, feel it when I heard it. Just release the spirit, let it flow though. How do you leaving out with one leg like Flojo? Now we to the cross with long nails like Coco. Free throat coat for the throat goats. Even if I gotta do it solo, even if I gotta do it with no promo, I ain't got my point across till we finally get across and pass the point. So there's a couple things that I gotta quote. Don't involve yourself in things you don't have to know. I ain't never question what you was asking for. I give you every single thing you was asking for. I don't understand how anybody could ask for more. Got a list of even more, I just laugh it off. I be going through things I had to roll. Celebrity drama that only rather know. Too many family secrets, somebody passing notes. Things I cried about, I find laughable. Little baby Jesus ain't laughing, no. Don't involve yourself in things that I ain't have to know. The big man upstairs ain't laughing, no. Don't involve yourself in things that I ain't have to know. Now here we are. Don't let the lights down drag you down. Who knows when was the last time you felt the love? One last sparkle to follow in my life. One last sparkle to follow the love. One last sparkle.
Believe what I say, c'était Kelly West.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Ah, il est magnifique. Hein? Ah, nous aussi, Jacqueline, Inch'Allah, on va aller au salon de l'agriculture, comme elle. Fille qui est belle aujourd'hui. Hein? Ah, si un jour on va au salon de l'agriculture, c'est pour moi. Le monsieur va dire, mesdames et messieurs, il faut faire accueillir la belle, la jolie, la gentille Jacqueline du Boulayon. Clap, 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 clap. Tout le monde, il va crier, il va faire la tête, hein. Il va te donner des bisous, des fleurs, des bananes. Mais aujourd'hui, il faut aller au marché. Ah oui, je sais. Toi aussi, tu ne veux pas aller au marché. Mais qu'est-ce que tu veux, hein?
Voilà, le film s'appelle Vache, il était sorti en 2016, réalisé par Mohamed Hamidi avec Fatsa Bouyamed et Jacqueline, la vache tarentaise, star donc de ce film. On parlait du salon de l'agriculture dans cet extrait. Est-ce que Alain Boissy, un salon comme ça, c'est un environnement hyper stressant justement pour les bovins?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, nous allons commencer prochainement à vraiment suivre les conditions de vie de ces animaux dans les concours, ouais. Et à appliquer en fait carrément un outil d'évaluation de leur état de bien-être, mmh. Avant, pendant et après les concours, parce que c'est quand même très éprouvant. Ouais. Et par comparaison, le ministère de l'Agriculture a sollicité le CNRBA pour évaluer aussi la fatigue des chiens de concours, uh-huh. et donc pour savoir à quel moment ces chiens peuvent revenir en concours, combien de temps il faut entre deux concours, parce que c'est très sollicitant pour ces animaux.
Vous emmenez pas vos salaires à Porte de Versailles, Pauline Garcia?
Non, elle reste...
Pour ces raisons-là, justement, pour des raisons de stress,
alors,
ou...
Pour des raisons que c'est énormément d'organisation. Avant, la préparation de l'animal, ça demande beaucoup de temps. Et puis parfois on repart sans prix, donc on peut être très déçu. Et puis non, je pense que oui, pour cette raison-là, elles sont bien dans les prés, elles sont bien dans leur famille, et les sortir des familles, les mettre pendant une semaine ou leur infliger un trajet qui est parfois un peu éprouvant, ouais, non, j'ai pas trop envie. Ça.
Pourtant la star chaque année, enfin chaque édition du Salon de l'Agriculture, c'est une vache. Hein. Là cette année, l'égérie, c'est Neige, une abondance.
Mais
pourquoi?
Ça, j'en suis convaincue.
Mais alors juste vaches, mais... par rapport à ça, pourquoi la vache plus que encore une fois le mouton, la chèvre, le cochon? Pourquoi quand même la vache? On disait tout à l'heure. Peut-être peu d'intérêt, mais elle a quand même cette espèce de côté très sympathique. On en fait une égérie, il y a des produits bien connus qui ont pris la vache comme emblème. Pourquoi? Vous le savez, ça?
Parce que c'est, oui, comme vous avez dit, c'est vraiment un emblème. C'est de par déjà sa corpulence, il y a une prestance qui existe. Donc c'est ce côté aussi relativement nonchalant de l'animal, qui ne réagit pas aussi brusquement que le mouton, par exemple, qui est une espèce de proie encore plus effarouchable. Donc effectivement, il y a ce côté tranquillité que véhicule la vache par sa corpulence, qui doit avoir un facteur quand même très attractif.
Pauline Garcia, on va écouter un petit son parce que vous filmez aussi vos vaches, hein,
oui,
vous postez sur les réseaux sociaux. Ça, c'était en 2020 avec une de vos vaches. Bon, on va écouter comment vous leur parlez justement.
Ouais.
Qui c'est ça qui vient me voir? C'est ma boulogne. Ah, oh, ma boulogne, elle me reconnaît à chaque fois. Ma boulogne. Oui, elle me reconnaît. Comment elle va? Inspection du corps. Garrot, tout va bien. Les mamelles, elles sont là. Super. Hein, ma beauté boulogne? Et les pieds, comment vont les pieds? Les pieds, ils vont bien. Ils vont bien. On gratte. On gratte les pieds. Voilà. Et ma boulogne, magnifique. Bon, inspection, perfection. Tout va bien.
Voilà. Et le grattage est important, c'est même en couverture de votre livre, on voit avec une brosse,
ça, hein,
et vous en parlez beaucoup dans l'ouvrage.
Oui. Ben, en fait, je me suis calquée en les observant beaucoup à leur communication. Les vaches se lèchent énormément entre elles ont une langue très rugueuse, donc quand elles se lèchent, c'est comme du grattage. Donc moi, pour commencer à initier une relation, je vais tout de suite essayer de reproduire cette sensation-là de grattage avec ma main, ou avec une brosse.
Ouais, et vous en mettez même, vous en fixez hein, un peu partout
pour
que les
animaux
puissent...
C'est très très enrichi.
Alors Patrick, justement, nous demande par mail, comment peut-on savoir qu'une vache est heureuse?
Alain Boissy.
Oui, pardon. Oui, je pense que déjà, c'est en voyant ses comportements. On parlait juste à l'instant de grattage. Et il faut savoir que le grattage, le léchage, ce sont des interactions, des comportements qu'on observe entre animaux qui ont de fortes affinités entre eux. Entre deux vaches, entre deux veaux, entre deux génisses. Et donc, on voit bien que c'est recherché par l'animal. Vous posez des brosses dans la stabulation, enfin dans le parc dans lequel vous élevez les animaux, vous verrez que ces brosses sont très utilisées par les animaux. Il y a vraiment un côté apaisement, il y a un côté recherche de plaisir que l'on observe. D'ailleurs, un animal qui commence à être malade, avant qu'il y ait des signes cliniques, on va voir une chute d'utilisation de la brosse. Comme nous, quand on commence à être effectivement avoir un peu de température,
on se néglige un peu plus. Quoi.
Voilà, on se néglige, on n'a plus envie trop de se faire plaisir. C'est la même chose pour les animaux. Et plus on les observe, plus on les étudie, plus on se rend compte qu'on a les mêmes comportements à la fois sociaux et de recherche.
On peut compléter peut-être sur la question de l'auditeur, Pauline Garcia.
Parce que effectivement, quand on observe des vaches, elles s'expriment par des postures. Et on peut catégoriser par des postures de bien-être et de mal-être. Une posture de mal-être, par exemple, c'est une vache qui va rassembler sa queue sous son abdomen, comme un chien quand il a froid. Elle va plus ruminer, elle va avoir un regard figé, elle va perdre le tonus musculaire au niveau des oreilles, elles auront les oreilles qui tombent comme ça. Elle va se replier, elle va s'isoler du groupe. Donc tous ces indicateurs-là nous permettent de comprendre que la vache... Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas très bien.
Et
là.
C'est commun à toutes les espèces de vaches?
Toutes les races?
Toutes les races, pardon, excusez-moi.
Oui, en général, oui.
Ouais. Alain Boissy, sur le bien-être animal, là aussi, il y a des critères très spécifiques qui sont vraiment indicatifs de l'état dans lequel doit être l'animal.
Oui, c'était nécessaire pour aller au-delà de la phase anthropomorphique qui est nécessaire pour avoir un peu d'empathie à l'égard des animaux. Après, il faut s'en détacher. Et dans les années 2005-2010, il y a eu un grand programme européen qui a regroupé une trentaine de laboratoires, d'équipes européennes, pour développer des grilles d'évaluation très objective, basée sur les quatre principes de bonne alimentation, bon hébergement, bonne santé, et puis des comportements appropriés par rapport à l'animal, notamment pouvoir interagir avec les congénères. Et donc, on a vraiment maintenant des outils d'évaluation objectifs, je dirais, de la subjectivité animale.
Ouais.
Claire nous demande sur franceinter.fr s'il n'est pas cruel d'enlever les veaux aux vaches pour la production laitière. Elle demande s'il serait possible de traire les vaches tout en leur laissant leurs veaux, Pauline Garcia.
Alors, donc, je suis éleveuse d'allaitante, donc il faudrait que ça soit un éleveur laitier qui parle, qui réponde.
Vous n'avez pas de réponse à formuler là-dessus ?
Je pense qu'un éleveur laitier serait plus placé. Mais effectivement, hors contexte, c'est vrai que cette situation-là peut paraître cruelle, ouais. mais il faut le voir différemment. Il ne faut pas justement mettre de l'anthropomorphisme à ça, parce que sinon on se fait envahir par des émotions et on calque nos émotions d'humains sur les émotions des animaux.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les vaches, est-ce qu'on sait si les vaches quand même ressentent quelque chose quand le veau leur est enlevé ?
Ce sentiment d'attachement, est-ce qu'elles l'ont vraiment eu dans les premières minutes de vie, tant qu'elle n'a pas léché, tant qu'elle ne s'est pas imprégnée du veau ?
Alain Boissy.
Moi je mettrais aussi la dimension sélection domestication. Les vaches laitières ont été sélectionnées depuis le 19e siècle, sélectionnées pour produire du lait, mais en même temps les travaux ont permis de montrer que on avait co-sélectionné aussi des comportements. C'est que la vache laitière maintenant développe pas un comportement maternel comme peut le faire une vache salaire ou une vache allaitante en général. Et puis dans l'inverse, le veau, lui aussi, ne développe pas un lien aussi fort avec sa mère. Mais il y a des alternatives qui commencent, même en vaches, en troupeaux laitiers, où on va parler de nourrices, des vaches nourrices, c'est-à-dire que les veaux vont être mis par deux ou trois avec une vache nourrice. Mm-hmm. Donc ils vont allaiter, ils vont être sevrés comme
un substitut.
Jusqu'à 8-9 mois, voilà, ouais. Des substituts.
Allez, on parlera des capacités cognitives, évidemment, parce que c'est au cœur de votre discipline laitologie, et puis on poursuivra notre découverte donc des comportements de nos amis bovins. Et vous poursuivez aussi vos messages sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
À 14h31, on reste à la ferme, Camille Cronier, finalement.
Et même si ça ne te fait pas la une des journaux, la grippe aviaire touche la France cette année encore. 5 foyers, 5 élevages. Dans le nord de la France, c'est un tout nouveau chiffre. Le gouvernement prend la menace très au sérieux, risque classé élevé. Tellement qu'il a décidé que, allez hop, tout le monde rentre à l'intérieur.
Les animaux confinés, on est exactement dans cette logique-là.
C'est Nicolas Géraud qu'on entend porte-parole de la Confédération Paysanne. Les volailles des 20 000 élevages français ne peuvent plus voir le jour, et cela, quelle que soit leur taille.
Jusqu'à maintenant, on avait une dérogation pour les élevages de volailles en dessous de 3200 canards ou équivalents, où on pouvait continuer, avec certaines adaptations, à sortir les animaux. Aujourd'hui, cette dérogation a été purement et simplement supprimée par le ministère. La norme, c'est la claustration des animaux.
Autant vous dire que les 30% d'éleveurs et éleveuses plein air font la gueule, comme Christophe Mesplède dans les Landes.
Un canard, il est pour aller dehors. On n'a jamais vu dans la nature des canards qui cherchent absolument à rentrer dans des abris artificiels ou naturels. C'est pas vrai. Donc vous imaginez le stress. Bon, on nous demande tout d'un coup de mettre ces animaux qui avaient de l'espace dans des bâtiments où là, ils ne pourront plus bouger. C'est pas possible, on sait pas faire. Les industriels, ils savent le faire, mais nous, on sait pas.
Et c'est pareil à l'autre bout de la France, au GAEC des Copains. Oui, ça s'appelle comme ça. Le GAEC des Copains dans les Vosges, où Pierre-Olivier Roudil s'occupe de 460 poules pondeuses en bio, qui se sentent désormais un petit peu sardines dans le bâtiment, pas adapté à la base.
Ça doit faire 8 poules au mètre carré, je crois. Pour vous donner un ordre d'idée, le parcours, c'est l'inverse. C'est une poule pour 8 mètres carrés, genre. Pendant qu'elles ont un grand parcours qu'elles ne doivent pas utiliser.
Et ce confinement les rend folles.
Les poules pondeuses sont très agressives, parce qu'en fait, leur nature, c'est de passer la journée à gratter la terre, à chercher de la nourriture. Et du coup, à la fin, elles finissent par se piquer entre elles, quoi. Et les poules, dès qu'il y a du sang, après, elles s'acharnent, quoi. Voilà, quoi. Donc ça crée un mal-être et du coup, des blessures sur les poules, etc., quoi.
Blessées, déplumées, stressées. Et puis, il y a aussi des conséquences, bien sûr, pour nous, consommateurs, et oui. Depuis début novembre et au moins jusqu'à février-mars, il y aura beau écrit « plein air » sur l'étiquette.
C'est une tromperie, c'est-à-dire qu'actuellement dans tous les magasins, tous les produits œufs, volailles sont vendus plein air. Même sur France Inter, l'autre jour j'entendais une publicité des poulets de Louet, poulets élevés en plein air, alors qu'actuellement ils sont claustrés.
Et oui, Sylvie Collas, éleveuse de volailles et de poules pondeuses dans le Gers, vous dit la vérité, hein, le plein air n'est plus que de la théorie au moment où je vous parle, et donc je vous le redis, jusqu'à au moins février-mars, à moins de tomber sur un professionnel comme elle, qui fait de la résistance, elle le dit comme ça, et l'assume.
J'ai j'ai toujours toutes mes volailles dehors. Pour ceux qui sont en âge d'être dehors, c'est-à-dire mes petits poussins, bien sûr qu'ils sont pas dehors, il fait trop froid, mais toutes mes volailles qui vont être bonnes à consommer dans les semaines qui viennent, et notamment mes volailles de Noël, mes pintades, etc., il faut qu'elles soient vraiment dehors, sinon j'aurai pas la qualité qu'attendent mes clients. Et je veux pas leur mentir. Il n'est pas question que je passe à un modèle industriel où ils auront à manger, excusez-moi, un produit dégoûtant.
Les restrictions mises en place par le gouvernement sont vécues par la filière plein air comme une injustice.
Voilà, on est un peu les victimes collatérales de cette grippe aviaire, quoi.
Mais le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, s'en est expliqué il y a quelques jours sur France 3.
Ça vient d'où ce virus de l'influenza aviaire? C'est les oiseaux migrateurs qui passent au-dessus de notre pays, et quand ils se posent, ils peuvent avoir des contacts avec d'autres volailles, et si eux, ils sont porteurs du virus, ils contaminent nos élevages. Donc, et donc, nous sommes aujourd'hui dans un état de vigilance total, avec des mesures de protection totale, pour faire en sorte d'éviter au maximum que ce virus arrive, ou le plus tard possible.
Argumentation qui fait bondir la Confédération paysanne.
Les deux premiers élevages touchés en France, le premier, c'est un élevage de 160 000 poules pondeuses en bâtiment, qui ne sortent jamais. Le deuxième, c'est un élevage de 30 000 reproducteurs qui sont en bâtiment également et qui ne sortent jamais. Donc on n'est pas du tout dans le mythe de dire la grippe aviaire arrive par les oiseaux migrateurs et c'est l'élevage plein air qui est le diffuseur, l'incubateur de la maladie et c'est par là que ça passe. Non, c'est totalement faux.
Et les trois autres foyers concernent des élevages de 24 000 à 30 000 volailles. Faire rentrer tout le monde ne changera rien pour l'éleveur de canards Label Rouge Christophe Mesplède, par ailleurs vice-président du MODEF des Landes, le mouvement des défenses des exploitants familiaux. Lui, comme d'autres, pense que tout cela se fait à la demande des géants du secteur.
Bon, les industriels, ils s'en contrefoutent parce qu'ils vont continuer. Vous avez une marque comme l'abeillerie, et ben lui, il a un joli packaging bien doré. Ils communiquent jamais sur le plein air parce qu'ils peuvent pas le faire déjà. Et puis ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est faire du produit de masse et puis avec de la communication et de la pub à la télé, ben ils s'en sortiront. Nous, c'est pas le cas. Aujourd'hui, celui qui a pas la capacité à mettre les animaux à l'intérieur, il arrête de produire.
Une menace donc sur les éleveurs plein air qui demandent des mesures différenciées et adaptées et ne comptent pas se laisser faire.
On ne lâchera rien parce que vraiment, c'est l'avenir d'un modèle agricole qui disparaît.
Et le mode de vie, la philosophie qui va avec. Sylvie Collas était en route pour manifester en ce moment à Toulouse, quand je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, pendant que d'autres restent s'occuper de leurs canards, par exemple, que je vous aurais bien fait écouter, mais...
Je peux pas vous faire écouter de bruit, je suis désolé. C'est des mâles, ils font pas de bruit. Ils font, je sais pas comment vous dire, moi, ils font un léger allaitement, là. Bon, ils me regardent, là, ils se demandent d'ailleurs à qui je parle, là.
Eh ben, à la France entière, pardi, on est sur France Inter.
Voilà, Camille Passot, Vert, c'est à réécouter sur franceinter.fr. On y reviendra évidemment sur ce dossier qui nous concerne tous directement, et les éleveurs en premier.
Je voulais vous demander, Alain Boissy, Pauline Garcia, si quand on rentre les vaches, donc comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, Pauline Garcia, entre l'extérieur et l'intérieur, est-ce qu'il y a un changement de comportement ou est-ce qu'elles le vivent bien, par exemple, comparé à des volailles dont on parlait?
Mais forcément qu'il y a un changement de comportement, parce que le comportement, c'est vraiment le moyen qui permet à l'individu de s'adapter. Donc, entre passer du plein air, où l'animal peut parcourir des longues distances, il peut aller interagir avec des congénères qui sont assez loin, là, il va se retrouver en bâtiment, ce qu'on appelle en stabulation, ou avec une forte densité, et la promiscuité peut être à l'origine d'échanges un peu agressifs entre les animaux. Donc, forcément, il y a une différence là. Après, ce qu'il faut voir, c'est comment l'animal passe d'un milieu ouvert à un milieu fermé, avec une transition, avec une possibilité de sortir régulièrement. Voilà, la possibilité d'avoir un contrôle fera que l'individu acceptera plus facilement les conditions.
Mais là, on voyait avec les poules, il y a clairement un problème de bien-être hein, sur ces animaux qui sont en promiscuité totale, alors qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc là, il y a souffrance de la part des animaux.
Voilà, tout à fait. Et là, on tombe vraiment dans la situation la plus extrême, c'est-à-dire comment gérer, dans le cas d'une crise sanitaire, comment en fait gérer ce compromis entre bien-être animal et santé animale. Et on a bien vu, nous, pour la gestion de la Covid, on a privilégié en fait la santé physique aux dépens du bien-être, notamment de des personnes âgées dans les EHPAD, où on a dit on les protège par rapport au virus, sans se prendre en compte effectivement l'état mental de l'individu. C'est la même question qui se pose pour les animaux.
Pauline Garcia, vous voulez réagir ?
Oui, moi ce que je constate quand on les fait passer en bâtiment pour la période hivernale, c'est que les status ont tendance à se surexprimer. C'est-à-dire que la dominante, qui en temps normal se fait respecter par l'ensemble du troupeau, et bien là, elle a tendance à parfois s'acharner sur les soumises. Et du coup, les soumises peuvent présenter vraiment un important repli. Et donc, elles perdent l'initiative d'aller manger, d'aller boire. Donc, il faut vraiment beaucoup observer dans ces cas-là. Et si ça dure trop longtemps, isoler l'animal et la passer dans un autre parc.
Donc, ça exacerbe les caractères déjà bien trempés chez les vaches, par exemple. Allez, c'est le dossier de la Terre au carré cet après-midi.
Que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes sont bruits, les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous.
Alors, c'était Au Clou sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans les laboratoires de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, on s'est donc attaché à rendre le plus efficace possible le déjeuner du bovin. Cet animal, pourtant bien vivant, n'est en fait qu'un appareil de mesure, une chaîne de fabrication. À l'entrée, on pèse la nourriture ingérée et à l'autre extrémité de la chaîne, on pèsera aussi les sorties. Pour juger de ce qui s'est passé entre les deux, à l'intérieur de l'usine vivante, on fait des prélèvements à tous les stades de fabrication grâce à des fistules. Ainsi pourra-t-on forcer et même accélérer la capacité des bœufs à produire de la viande.
Dans cette écuelle, il y a déjà la promesse des beefsteaks de demain.
Encore quelques efforts et même quelques coups de pompe à vélo, et le hublot sur la vie sera à nouveau fermé, plus étanche que jamais.
Voilà, oui, vous avez bien compris si vous écoutez cet extrait de l'INA de 1970 avec l'ORTF qui présentait donc des vaches à hublot. Alors c'est vraiment un hublot incrusté dans le flanc de la vache pour eh bien justement accéder directement à leur système digestif. C'était l'INRA à l'époque qui faisait ça. Alors l'INRA est aujourd'hui, est-ce qu'on continue, Alain Boissy, chez vous, ce genre de pratique qu'avait dénoncé L214 en 2019?
Alors, donc, cette pratique, les animaux qui ont été opérés et qui disposent de cette canule, de cette fistule dans le rumen notamment, continuent à exister. Mmh. Et donc, les travaux pour le suivi, justement, de la digestibilité des aliments se poursuivent. Mais il y a eu l'arrêt depuis cette année, donc, d'intervention de nouvelles opérations sur de nouveaux animaux.
Donc, ce sera terminé. Il n'y aura plus de vaches à hublot.
Il n'y a plus de d'intervention, de chirurgie qui vont s'opérer à partir de maintenant pour ces vaches fistulées qui devront, en fait, ça nécessitera des méthodes
substitutives. Mais il y a une souffrance chez l'animal ou pas, ça? Physiquement, qu'est-ce qu'elle ressent, la
Alors, vache, il faut savoir que au niveau du rumen, donc c'est un endroit où il y a très peu, c'est très peu innervé, donc il n'y a pas de ressenti douloureux. Ce qui est douloureux, c'est l'intervention chirurgicale. Mais avec une gestion de la douleur en prévention, et puis bien sûr après pour limiter la douleur liée à la chirurgie, eh bien les animaux n'expriment pas, et nous avons étudié avec les collègues physiologistes donc l'évaluation de leur état de bien-être. Une fois que l'animal était opéré, qu'il avait récupéré, dans une intervention, il ne montre pas de stress et de douleur particulière.
Mais est-ce que vous comprenez l'émotion que ces images ont suscité quand même?
Oui, complètement. Et vous savez, je viens d'un centre à côté de Clermont-Ferrand où justement ces vaches à canules, ces vaches à hublot, existent depuis les années 70. Donc, pendant des décennies, on entendait « Ah, vous travaillez à l'INRA, c'est les vaches à hublot ».
À Tex, c'est ça ?
Voilà, pareil, on ne prononce pas le X comme pour les salaires, on ne prononce pas le S. Mais, en fait, depuis les années 2000, nous avons adapté une stratégie de portes ouvertes pour expliquer aux gens et pour sensibiliser, éduquer. Et les gens comprennent, effectivement. Voilà, c'est en fait le contraste.
Pas tous, peut-être, quand même. Voilà, je pense que là, dans les auditeurs qui nous écoutent, il n'y en a pas beaucoup qui... Y en a
Puis journée porte ouverte pour parler des hublots, c'est pas très heureux, mais bon.
Oui, mais c'est la transparence. C'est la transparence.
Allez Camille, il y a des questions des
auditeurs. Oui, Jean-Pierre nous écrit « Nos amis, les bovines sont belles quand on ne coupe pas leurs cornes. » Il a mis ça en majuscule. « Peut-on évoquer cette pratique consistant donc à supprimer ces attributs qui ne sont pas là seulement ?» Il remet des grandes lettres « ne sont pas là seulement pour faire beau. » Pauline Garcia, pourquoi est-ce qu'on coupe les cornes des vaches ?
Pour plusieurs raisons. Pour souvent la sécurité de l'éleveur, pour harmoniser un peu la vie sociale en bâtiment. Parce que la vie sociale en bâtiment, elle est plus exacerbée, comme on a dit tout à l'heure. Les animaux s'expriment plus, et quand on a des cornes, eh bien, ça entraîne des avortements, des yeux crevés. Les vaches, entre elles, sont vraiment pas tendres du tout. Et parfois, il y a de l'acharnement sur une petite subordonnée qui ne demande rien, mais la dominante, ça lui fait plaisir pendant quelques minutes de s'acharner sur elle. Donc c'est assez problématique. Chaque ferme est différente, chaque éleveur prend les décisions qui lui regardent. Moi, je ne suis pas pour ou contre les cornes. Maintenant, je pense qu'il faut étudier la ferme, les pratiques, les modes, la conduite de la ferme, et voir dans quel environnement évoluent les animaux, et en contrepartie, prendre les décisions. Après, il y a le système du gène sans corne, où l'animal, il n'y aura pas d'acte. Voilà, il n'y aura pas d'acte de coupure de la corne, et il va naître sans corne.
Une autre question, Camille ?
Oui, Jean-Michel qui demande si les bovins voient les couleurs comme les humains.
Ils les perçoivent, ça c'est sûr, et notamment les couleurs très très claires. Donc,
alors la rouge, parce que je pense qu'il pensait, Jean-Michel, peut-être au rouge de la corrida.
C'est une rumeur, c'est complètement faux. D'ailleurs, la muleta change de couleur, parfois elle est jaune. C'est surtout l'habit de lumière qui pourrait exciter le taureau. Ce qui va vraiment, le taureau, moi je dis que le bovin, il a un filtre sépia et qui fait ressortir énormément les contrastes et les couleurs claires. Donc il vaut mieux éviter d'être sur du blanc clair, du blanc, du rose clair, du vert clair, tout ce qui projette le blanc, enfin la couleur, pardon, la lumière peut éblouir l'animal et donc potentiellement attirer son regard.
Alain Boissy, vous avez fait tout un travail avec des confrères sur l'élevage, l'abattage et la corrida. De quoi les bovins ont-ils peur ? Vous aviez signé ce titre. Et en conclusion, sur le chapitre « Le taureau de combat a-t-il peur ?», vous dites « Ainsi, il est à ce jour impossible d'affirmer que le taureau ne ressent pas de douleur et de peur pendant le combat ». C'est presque étonnant comme conclusion, non ? Parce qu'on en doute encore ?
On n'en doute pas, mais il faut savoir qu'il y a une décharge d'adrénaline très forte qui le temps de l'action physique, c'est comme des joueurs de rugby par exemple, il y a une inhibition de la douleur. Par contre, quand l'émotion s'arrête, là il y a effectivement un ressenti, encore un contre-choc encore plus fort, effectivement, et tout est fait notamment dans le cadre de la corrida, pour effectivement mettre l'animal dans une situation de stress intense, le temps, je dirais, du spectacle. Et après, on se soucie plus trop de ce qui se passe.
Mais quand on travaille sur les capacités cognitives justement de ces animaux et qu'on comprend vraiment qu'il y a tout un système de communication, évidemment de la sensibilité, ça maintenant c'est même reconnu officiellement, comment est-ce qu'on peut imaginer laisser des animaux subir ce genre de spectacle par exemple ?
Ah ben, c'est une là on tombe dans les notions culturelles. Voilà, et en fait, on est à cheval entre une situation qui peut se raisonner, où on a suffisamment d'arguments, et puis des pratiques, on va dire, des pratiques en fait liées à une culture. Mmh. Nous ne sommes pas du tout sur le même registre.
Les deux s'affrontent.
Vous qui travaillez donc sur les capacités cognitives, est-ce qu'on peut dire, comme on le dit d'autres animaux, que les vaches ont une intelligence, une forme d'intelligence ?
Complètement, on le dit et on l'écrit. Les vaches ont cette capacité de discriminer. On parle de communication animale tout à l'heure avec la vie en groupe. Donc elles sont capables de se reconnaître entre elles. Ça nécessite quand même des capacités d'anticipation, de discrimination. Vous savez, il y a eu une expérience très simple qui a en fait été faite sur des Primostein, donc des vaches laitières, avec des photos de congénères. À discriminer, on voit que les animaux discriminent entre une photo de vache ou une photo d'un autre animal, voilà, spécifique, ouais. Pour associer, par exemple, de l'aliment, on lui dit, ben, tu te diriges vers la photo où il y a le congénère, et pas vers la photo où il y a, par exemple, un cochon.
Et elle comprend. Photo.
Donc elle apprend très vite. Et quand on change les signaux qu'on met une autre vache d'une autre race, vous voyez, et une autre espèce animale aussi, eh bien, l'animal, sans apprendre, est capable de reprendre le bon comportement, de discriminer et d'aller trouver l'aliment là où se trouve l'aliment, c'est-à-dire associé à la photo de la vache. Ça veut dire que non seulement elle est capable de reconnaître une photo qu'elle a déjà vue, mais elle est capable de discriminer, de catégoriser entre individus d'une espèce par rapport à individus d'une autre espèce. Donc vous voyez, c'est juste une illustration, mais il y en a tellement d'autres qui montrent ce potentiel. Et même avec des clones, des vaches clonées, ça a été fait, des vaches clonées qui n'ont pas d'expérience entre elles, sont capables de reconnaître un individu du même clone qu'un individu d'un autre clone.
C'est gros comment le cerveau d'une vache ?
Plus gros que le nôtre. Donc plus gros.
C'est quelle taille à peu près ?
Ça pèse combien ? Au moins 2 kilos ? 2 kilos 5 ?
Oui, voilà.
L'intelligence n'est pas en rapport avec la taille
non,
du...
Non.
Oui, mais
le très bon exemple avec le cerveau d'Einstein, hein, mais c'est plutôt les ramifications au sein du cerveau qui sont
Pauline
importantes.
Garcia, vous, quel est finalement le comportement le plus intelligent que vous qualifieriez pour parler de vos vaches ?
C'est au quotidien le fait que dans l'apprentissage, leur apprendre que il faut patienter et que il faut un code qu'on leur apprend, il faut patienter un certain moment, et quand je lui dis OK, tu peux y aller, elle y va. Donc apprendre à patienter, à s'immobiliser, à ne pas bouger, ça c'est on dit toujours c'est aux chiens qu'on l'apprend mais pas aux vaches quoi.
Allez, on se retrouve dans un instant et puis on termine par les questions des auditeurs.
Un jour le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa 3 temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. Des dancings au cimetière, tout le monde le chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent aux heures des repas, le diable venait sur sa java frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout, tout de suite apeuri, circonvenant bien les esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député prit le coup à la tribune de la chambre, dit dans son discours: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? À coup de fusil, on l'eut l'abattre, il expira au deuxième couplet. La salle pléielle n'écoutait plus, les grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre met là Sébastien Bach et la java. Ronde folle, ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur.
Duc de Reichstadt, avez-vous dit? Non, non. Et savez-vous quel est mon véritable nom? C'est celui qu'on pourra taire, la foule qui s'écarte, murmure autour de moi, le petit Bonaparte. Je suis son fils, rien que son fils. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, quelle pagaille dans le théâtre. Les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mers, ce fut bien pire. Le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait, pour son empire, jusqu'au pôle Nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers, où la grande Java sauvage fit des victimes par milliers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hurlaient New York et Chicago. L'or se vendit au prix du plâtre et le cigare au prix du mégot. Puis un jour tout devint tranquille, on n'entendit plus de Java. Dans les champs et dans les villes, savez-vous pourquoi? Parce que le diable s'aperçut qu'il ne touchait pas de droit d'auteur. Tout ça, c'était de l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Tout ça, c'était de l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Allez, remportons notre musique et retournons en enfer.
Voilà, et dans la même mission, vous écoutiez Charles Trenet et
Kenny West. C'est ça, les questions.
C'est la Terre au carré et c'est France Inter. Allez, on parle vache, il y a plein de questions, on y va, Camille.
Oui, alors, pas mal de questions sur les vaches qui éventuellement nous chargent. Françoise dit, qu'en est-il des vaches méchantes, celles qui vont avoir envie d'aller vers nous d'une façon agressive, envie de nous charger? Et Gladys ajoute, qu'en est-il de la réalité de ce phénomène? Et par rapport à ce que vous disiez, Pauline Garcia, sur la vision saccadée, elle demande, Gladys, si du coup, il vaudrait mieux traverser un pré très lentement plutôt qu'en courant, au risque de les inquiéter.
Les vrais pots de vache.
Alors après la peau de vache, elle a une raison d'être peau de vache. Soit elle protège son veau, soit elle a senti vraiment qu'il y avait un élément étranger au pré. Et en plus, cette personne qui traverse le pré, elle est parfois très tendue, très nerveuse, et elle le pue, ça le transpire. Et ça, la vache, elle est très sensible à ça. Donc elle se dit, il y a un élément étranger, et en plus, il n'est pas rassuré. Donc j'ai tout intérêt à le faire fuir rapidement. Je pense qu'une vache, elle ne va pas charger sans raison.
Pour les gens qui font de la randonnée, qui
évitez de traverser des prés où il y a des veaux et les mers, évitez de traverser entre les mers et les veaux, de couper en fait le lien, et toujours regarder s'il y a le taureau qui est quand même à proximité, parce que lui aussi il peut...
De toute façon, globalement, évitez de traverser les prés, ça vous appartient pas, donc...
et sans chien.
Et si par malheur ça charge, est-ce qu'une vache court plus vite que nous? Oui.
Oui. Mmh. Oui, oui.
Ah oui.
Bah oui, quand même, elle a quatre pattes, nous on en a deux.
Mais comme dit Pauline, le comportement maternel, c'est vraiment la défense du jeune, du jeune à tout prix. Donc la vache n'a pas forcément détecté la bonne intention du randonneur. Donc si le randonneur se trouve entre le veau et la mère va avoir un comportement de défense du jeune. Il n'y a pas une agressivité rentrer intra-animal, c'est vraiment la situation.
D'autres questions pour Pauline Garcia et Anna Boissy.
Très vite, Michel et Jenny demandent si on peut savoir et comment savoir si les vaches qui sont toujours à l'intérieur en stabulation sont heureuses.
Je pense qu'il faut pas généraliser en disant les vaches sont bien dehors et mal à l'intérieur. Parce que je connais des vaches ou des animaux, de personnes en particulier, en dehors du contexte de l'élevage, qui vivent dans des conditions extérieures. Et quand on les observe, il y a plein d'indicateurs de mal-être. Donc je pense qu'il faut observer, se mettre dans le point de vue de la vache, et essayer de comprendre si la vache, elle reflète du bien-être ou du mal-être. Mais pas catégoriser mal-être à l'intérieur et bien-être à l'intérieur.
Moi j'ai une question sur les mouches. Comment font les vaches, entre autres, hein, parce que les chevaux ont pour dire la même chose, pour supporter les mouches autour d'elles?
C'est le mot, elles supportent. Souvent, elles se mettent à proximité et elles ventilent avec leurs oreilles et leur queue.
Oui,
c'est pour ça que souvent, les vaches se couchent en groupe, en grappe même, pour s'aider. Après, sur certaines vaches dans ma ferme, où je sens que les mouches deviennent trop invasives au niveau des yeux et peuvent provoquer... Oui, c'est ça.
Il y a le masque anti-mouche.
Voilà, je mets le masque anti-mouche que l'on trouve sur mon livre.
Ça ne les gêne pas, ce masque?
Je vais le mettre en photo sur Instagram.
Justement, parce qu'on met un petit traitement en dessous local, et en plus, les vaches ont tendance à se lécher en plus entre elles quand les yeux coulent, donc elles peuvent aggraver un problème d'œil. Et du coup, le masque, c'est assez efficace.
Et une dernière question, peut-être, Alain Boissy, pourquoi une vache, ça fait meuh? Qu'est-ce qui déclenche le fameux meuh de la vache?
Une vache communique, elle communique, comme on l'a dit, visuellement, elle communique olfactivement aussi, on aurait pu parler des phéromones qui va modifier les comportements des autres, et puis elle communique aussi de manière sonore, elle n'a pas le même spectre acoustique que nous, elle entend des ultrasons, beaucoup plus qu'on ne peut le faire, et donc l'animal va exprimer aussi plutôt un état de mal-être, donc quand on la sépare des autres, ou quand elle a une douleur très forte.
Allez, je vous ai mis le masque anti-mouche en story sur le compte Instagram et Facebook de la Terre au Carré. Et puis, je vous conseille ce petit guide illustré du bien-être du bovin. C'est vraiment très intéressant sur les besoins fondamentaux et les comportements des vaches. C'est paru aux éditions France Agricole. Et vous le signez, Pauline Garcia. Merci également, Alain Boissy, d'être venu. Et à bientôt pour d'autres sujets
bovins,
peut-être.
Invitation.
Merci, au revoir.
Merci.